Bonjour Xavier Delaporte.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Suite aux deux attentats qui ont eu lieu à Orlando samedi et dans les Yvelines lundi soir et qui ont comme point commun d'avoir été commis par des hommes seuls, rejaillit la question du rôle d'Internet dans le processus de radicalisation et dans le passage à l'acte.
Oui, alors dans le cas d'Orlando, ce sont les autorités et le président Obama lui-même qui ont avancé l'hypothèse d'une autoradicalisation par les réseaux. Dans celui du double assassinat de policiers à Magnanville, c'est le tueur lui-même qui avait déclaré en 2013 devant le tribunal qu'Internet avait, je cite, programmé sa radicalisation. Alors bon, on va pas résoudre en 3 minutes cette question hyper complexe, mais il est sans doute pas inintéressant d'évacuer d'emblée les deux positions diamétralement opposées, mais communément bêtasses, qui consistent à dire d'une part c'est la faute d'Internet, sans Internet ce type de terrorisme n'existerait pas, et d'autre part, Internet n'y est pour rien, s'en prendre à Internet est aussi absurde que de rendre responsable le livre et l'imprimerie de l'expansion du fascisme dans les années 30. Bon, est-ce qu'il y a plus fin et plus intéressant que ces deux positions? Eh bien hier, je suis tombé sur un texte qui m'a fait réfléchir. Il s'agit d'un papier de Fusion. Alors Fusion, c'est un média américain à destination des hispaniques, qui est allé chercher un travail mené à la fin des années 70 par le théoricien des réseaux de Stanford, Mark Granovetter. Alors Mark Granovetter, il est connu pour avoir élaboré au début des années 70 la théorie des liens faibles. Mais c'est pour un autre travail que Fusion est allé le chercher. C'est pour un texte écrit à la fin des années 70 à propos du passage à l'acte dans le cas d'émeutes. La question étant comment une foule pacifique va produire une émeute, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un a priori insoupçonnable de violence va lancer un projectile? La théorie de Mark Granovetter veut que ça fonctionne par des effets de seuil. C'est-à-dire celui qui lance le premier pavé n'a besoin de presque rien pour le faire, lui son niveau de seuil c'est zéro. À côté, un autre a besoin qu'un premier pavé ait été lancé pour en lancer un. À côté, un autre a besoin de voir deux personnes lancer des pavés pour s'y mettre. Et si on prolonge de seuil en seuil, on arrive à ce que des gens dont on n'aurait jamais pu soupçonner qu'ils lancent un projectile le fassent. Que donne cette théorie appliquée à des attentats terroristes au rôle d'Internet? Eh bien, si Granovetter a raison, ça veut dire que le djihadiste qui coupe une tête à Raqqa et poste la vidéo sur YouTube, c'est le palier zéro. Et puis tout au bout de la chaîne, 5 ou 6 lanceurs de pierres plus tard, après les groupes organisés de Paris, de Bruxelles, le couple tueur de San Bernardino, vous avez Omar Mateen à Orlando et Abala dans les Yvelines. Internet rendrait donc visible à distance l'acte violent et permettrait ce franchissement des seuils. Alors cette théorie a sans doute plein de défauts, dont celui de faire fi des mobiles profonds. Mais elle permettrait peut-être de comprendre certaines choses. D'abord, elle permettrait de comprendre pourquoi les auteurs se réfèrent souvent aux auteurs d'attentats précédents, comme Omar Mateen l'a fait avec les frères Tsarnaev, auteurs des attentats de Boston. Elle permettrait de comprendre aussi le souci apporté par l'État islamique à la diffusion de ces actions violentes, jusqu'à la manière dont lundi soir, Abala s'est filmé sur Facebook Live, revendiquant et menaçant avec l'enfant en arrière-plan, pourquoi il a envoyé 2 tweets avec manifestement des photos de cadavres de ses victimes. Peu importe que ces images soient très peu vues, qu'elles soient presque immédiatement retirées, ce qu'elles visent, ce n'est pas le grand public qu'il faut terroriser, mais le minuscule public susceptible, lui, de franchir un palier. Cette théorie permettrait aussi d'expliquer pourquoi des personnes repérées par la police, surveillées, interrogées et considérées comme pas dangereuses sur le moment, le deviennent. Le processus qui mène à l'acte ne serait pas un continuum logique qui mènerait de la rencontre de l'islam radical jusqu'à l'acte terroriste, mais une sorte de déclic, la possibilité soudainement ouverte par un modèle presque visuel, un modèle dont Internet, un Internet même contrôlé, est aujourd'hui un des véhicules privilégiés. Alors même si elle a l'avantage de circonscrire le rôle d'Internet dans ce nouveau terrorisme, cette théorie a, je le répète encore une fois, plein de défauts, mais le pire d'entre eux, c'est qu'elle n'offre aucune solution.